Est-ce que je peux un tout petit peu parler de tournée?
Parce que tu l'as joué ce week-end?
Ouais, j'ai fait ma première partie ce week-end. Et en fait, là, tu parles en fait des aides de jeu, enfin, des graphismes, enfin, des symboles qui.
Ouais, t'as trouvé que tournée, c'était top.
Non, j'ai juste trouvé.
On a dit la première partie.
C'était horrible.
On a dit que la première partie était horrible, mais qu'après, le jeu était bien.
J'ai trouvé qu'il y avait une énorme interaction entre les joueurs.
Oui.
Que c'était incroyable et j'ai regretté d'y jouer qu'à deux.
En fait, non, enfin, ouais, ils sont différents, les jeux à deux ou à quatre.
Moi, je suis pas très jeu à deux et là, pour le coup, j'ai eu l'impression, je suis un peu resté sur ma faim. Je me suis dit que, si tu veux, j'ai construit un quartier qui permettait de provoquer des événements négatifs et de les infliger aux autres joueurs. Et quand tu joues à deux, c'est juste horrible. Ouais, c'est juste horrible. Donc, c'est pour ça que je parle d'interaction, c'est incroyable. T'as une vraie interaction. Tu sais pas du tout ce que tu veux faire dans la première partie. Et par contre, bah, t'as des cartes. Tu sais pas comment les poser. Tu sais pas quand est-ce qu'il faut les poser. Alors tu découvres en cours de partie que ah oui effectivement c'est cohérent si je la pose comme ça. Mais au niveau des symboles, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de raté.
Ah bah c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit qu'on voit que c'est un petit éditeur qui débute et l'iconographie est ratée.
Tout à fait. Alors je vais complètement et je te dis mais non mais si en fait.
Ah, si il y a des flèches qui sont pas dans les bons sens, ces trucs tout bêtes en fait.
Mais c'est pas ça. C'est que vraiment nulle part t'as l'information. Tu découvres l'information en posant. En fait, la règle est tellement courte que en fait t'apprends à jouer. Tu découvres.
Mais en fait, une partie toute la richesse.
Ouais.
Alors après, la différence.
Ou entre... deux ou trois.
Non.
Ouais,
non, c'est... non après, tu apprends à maîtriser les bâtiments. Par contre, au fil des parties, au bout de cinq parties, tu vas jouer vraiment différemment. Mais moi, à deux, t'as moins d'interaction. C'est clair. Enfin, allez. T'as moins d'interaction. Oui, non. Ouais. Le jeu, en fait, à 4, tu passes ton temps à. T'es frustré parce que tu fais qu'une action et t'attends après que ce soit ton tour. C'est pas si long que ça, mais t'attends. À 2, t'as pas ce problème, ça va très très vite. C'est un peu comme Dominion, en fait. À Dominion, t'attends jamais à 2 joueurs. Tu joues quasiment non-stop, alors qu'à 4, t'attends un petit peu. Mais par contre, à 4, il va vraiment. Parce que quand tu construis des bâtiments de prestige, ils rapportent des points de victoire aux autres joueurs. Enfin, ils rapportent des points de victoire
ça,
à toi et aux autres joueurs.
Hein.
Et donc, et ouais, mais c'est ça qui est la richesse, par contre, du jeu à 4, que tu as beaucoup moins à 2, c'est que c'est à toi de t'adapter au mieux par rapport à ce que construisent tes adversaires. Pour marquer un maximum de points de victoire, même là
en
où ils vont faire.
Tous les autres joueurs.
Exactement. Et c'est ça qui fait, par contre, sa plus forte richesse à 4. Par contre, je trouve que ça l'est pénalisé par la relative lenteur. Je dis relative, hein, parce qu'une partie, c'est quand même 3 quarts d'heure. Même à 4, c'est très rapide. Hein.
Alors,
mais à 2, en 3 quarts d'heure, t'en fais 2 parties.
Donc, je confirme ce que tu disais sur les symboles, sur les pictogrammes. Je confirme ce que t'es en train de dire. Je pense que ça vaut le coup d'y jouer à 3 ou 4. J'y jouerais bien à 3. Tu sais, c'est.
Non, c'est tournée, c'est pas 3.
Ah oui, mince.
Quelle idée d'avoir sorti un jeu qui s'appelait 3.
Ouais, c'est clair.
J'ai pas essayé à 3, par contre, je peux pas dire.
Ben, en fait, je pense que c'est un peu comme avec Innovation. C'est-à-dire qu'à 2, c'est très tactique. À 4, c'est un peu trop le bordel. Et à 3, bah, t'as.
C'est pas assez le bordel à 4, mais c'est frustrant parce que tu attends, quoi. Tu fais qu'une action par tour, c'est court, une action.
Ouais, ou deux.
Et tu la fais vite.
Si tu poses une carte.
Tu poses une carte, mais c'est pas une grosse action.
Et. Il y a un truc intéressant, c'est que je le rapproche de Aura Elabora, dans le sens où tu dois anticiper la construction de ton quartier.
Ah oui.
Et comme à Aura Elabora, tu as une agglomération qui se met en place et tu vas anticiper le décompte des quartiers, et ben là, c'est pas pareil, mais les personnages vont te permettre de décompter les bâtiments.
Ouais.
Et c'est incroyable. Bon, bah écoute, moi, ça m'a vraiment donné envie d'y revenir. Pendant très longtemps dans la partie, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est et en fin de compte, en y repensant, je suis plutôt envie et je penche vraiment pour quelque chose de très agréable un jeu auquel on a envie de rejouer.
Bon, et pour ceux qui ne sauraient pas encore, c'est dans le numéro 23, on vous le présente en détail.
Ah, ça fait un mois déjà.
Ah ouais. Voilà.
Tournée, c'est pour 2 à 4 joueurs, c'est à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est 30 euros chez Pearl Games à partir de 12 ans.
Ouais, 10 ans.
10 ans. Ouais. Faut... Et puis, vous l'attendiez parce que ça fait longtemps qu'on vous l'annonce. Et j'attends toujours
Scrunch.
La personne qui, sur iTunes, nous a dit qu'il y avait des mots qu'il ne comprenait pas. Monsieur, prends ton smartphone. Envoie-nous un petit MP3 en nous demandant ce que tu veux qu'on t'explique et on va te l'expliquer. Un grand merci à la grand-mère de Jocelyn et un grand merci à 2D Chutes, grâce à qui on va pouvoir lancer la nouvelle rubrique.
On en manquait.
On en manquait. Le jeu société expliqué à ma grand-mère.
Bonjour, Proxy Jeux. Que veut dire deck building ?
Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir posé cette excellente question. Qu'est-ce qu'un deck building ? Alors, Jérémy, toi qui es un expert en deck building, je vais peut-être m'adresser à toi.
Alors, deck building, on va décomposer, hein, c'est building, construction, deck d'un deck. Un deck, c'est un paquet de cartes.
Nos enfants savent ce que c'est qu'un deck.
C'est un paquet de cartes.
Oui,
justement. Alors, c'est né en 2007, avec l'arrivée de Dominion, un jeu de Donald Vaccarino, dans lequel, en fait, les joueurs vont progressivement constituer leur pioche. En fait, avant Dominion, quand on jouait à un jeu de cartes, chaque joueur avait son deck déjà constitué, genre par exemple un paquet de 60 cartes, et il jouait avec ces cartes-là. Et donc, il pouvait invoquer la malchance en disant que c'était mal construit, qu'il n'avait pas la chance dans la pioche, etc. Dominion, ça change. Au départ, les joueurs commencent tous avec les 10 mêmes cartes qui vont leur permettre d'acheter, via un système d'achat, etc., et d'action, des nouvelles cartes. Et ils vont constituer donc eux-mêmes, au cours de la partie, leur deck. Ainsi, si jamais ils estiment qu'il est mal construit, ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes.
Oui.
Voilà.
Ou aux autres.
Aux autres, parce qu'on peut courir un peu. Mais bon.
Alors, le problème avec le deck building, c'est qu'on le mélange. Et donc, on va mélanger ces cartes. Les cartes ont une certaine interaction les unes avec les autres. On attend ces combos, ces combinaisons de cartes. Et malheureusement, parfois, elles ne sortent pas.
Oui, bah c'est les aléas du jeu de cartes. Voilà. Donc, Dominion, c'était le premier deck building en 2007. Depuis, ça a pas mal...
explosé.
Ça a explosé depuis un an à peu près, le temps que les auteurs maîtrisent ce nouveau mécanisme. Il y a eu donc des jeux plus thématisés. On reprochait à Dominion qu'il soit un peu froid. Donc, il y a eu Thunderstone
qui était très thématisé. Je descends dans le donjon, je vais recruter des héros.
Tue des monstres.
Je vais leur donner des armes, de la nourriture. Et puis, ils vont tuer des monstres. Le problème de Dominion, le problème de Thunderstone, c'est qu'il était un poil... Il est un poil trop long.
Voilà. Dominion, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Thunderstone, on est plutôt...
Une heure et demie.
Ouais,
mais au moins, on s'amuse, on pète la tête des monstres.
Voilà, bon. Après, il y en a eu plein d'autres. Alors, il y a des trucs anglais qui ne sont jamais arrivés en France, Resident Evil.
Oui, mais on parle à la grand-mère de Jocelyn, donc
Donc,
on ne va pas parler de ça. On va pas parler de Resident Evil.
On va pas parler de Resident Evil, non, les zombies pas. Et Nightfall.
Ce qu'on peut dire, c'est que le mécanisme de deck building, de construction de paquets, a été réutilisé ensuite pour certains jeux. Par exemple, A Few Acres of Snow, quelques acres de neige. Qui se déroule
quelques
arpents de neige. Et le deck building a été, il y a eu une évolution,
Amélioration,
je cherche le terme, mais je ne trouve
transcension.
Pas. Avec
transcendance.
Quarriors. Quarriors, ce n'est plus un deck building, mais un bag building, puisqu'on ne construit pas un paquet de cartes, mais on va placer des dés dans un sac.
Donc on construit un paquet de dés.
Et on construit un sac de dés.
Une poche de dés.
Voilà.
C'est du pocket dice building.
Voilà, donc le deck building, c'est ça, c'est la construction de jeux de cartes. Alors j'espère que nous avons bien répondu à votre question et nous vous remercions de nous l'avoir posée. Donc on remercie beaucoup Jocelyn, on vous garde le 4X et la question du petit Dédé Schutz de Strasbourg pour la fois prochaine, pendant 15 jours. Et d'ici là, vous pouvez nous envoyer vous aussi votre question à
contact@proxy-jeu.fr.
Proxy avec un i et jeu avec un x. Et puis, ça faisait trop longtemps qu'on ne l'avait pas entendu de Proxy Jeu. On est super content de réécouter Gus pour une nouvelle intervention. Et on va l'écouter tout de suite et puis on réagira. Tout de suite après.
Bonsoir les auditeurs, bonsoir Olivier, bonsoir Jérémy. C'est Gus de gus&co.net. Ça me fait plaisir d'être de nouveau sur Proxy Jeux, ça faisait un bout de temps là. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'innovation et de créativité. En fait, je vais rebondir sur ce que j'avais présenté la dernière fois dans le numéro 22 sur l'overplay. Alors j'ai parlé d'overplay, le fait que les joueurs jouent beaucoup et qu'au bout d'un moment, ils ont peut-être tendance à se lasser un petit peu, à devenir exigeants. Mais en fait, aujourd'hui, je vais parler un petit peu des auteurs de jeux et des éditeurs. Parce que finalement, on se rend compte que beaucoup de jeux reprennent des thématiques, des mécaniques qui reviennent assez souvent, assez fréquemment. J'ai lancé sur mon site, il y a quelques jours, une petite interview croisée de plusieurs auteurs de jeux qui ont répondu à trois questions, à savoir d'où venait une idée, comment est-ce qu'ils passaient à la création, et puis quelques trucs, astuces qu'ils avaient pour être plus créatifs. Et en fait, la question essentielle qui m'intéresse de discuter aujourd'hui, c'est de savoir comment viennent les idées pour ces auteurs de jeux qui nous font tellement plaisir. Et finalement, on se rend compte que dans leurs réponses, la plupart du temps, c'est en jouant à d'autres jeux. Ils ont joué à d'autres jeux et puis ils ont envie de retravailler des mécaniques, d'élaborer, de complexifier, de simplifier, de transformer. Mais la plupart du temps, finalement, ce qui revient, c'est que ces auteurs de jeux s'inspirent plus ou moins beaucoup d'autres jeux existants pour développer leur propre jeu. Et alors voilà, finalement, ce qui leur ressort de tout ça, c'est que les jeux qui sortent depuis quelques années reprennent finalement un petit peu les mêmes mécaniques. On a du bluff, on a des objectifs secrets, on a des enchères, on a du guess. Finalement, voilà, c'est vrai que l'overplay fait que les joueurs deviennent très très exigeants parce qu'ils jouent beaucoup, donc au bout d'un moment, ils commencent à reconnaître les mêmes mécaniques un peu à gauche à droite. Mais finalement, on se rend compte que les jeux qui sortent, qui sont créés et puis édités, reprennent beaucoup d'autres jeux précédemment sortis. Parce que finalement, la création fait que les gens s'inspirent, les auteurs s'inspirent des jeux sortis. Donc je me pose la question, savoir est-ce que finalement, les auteurs de jeux n'auraient pas meilleur temps d'arrêter de jouer ? Tout simplement d'arrêter de jouer. Pourquoi ? Pour être beaucoup plus innovant. Parce qu'à force de jouer à d'autres jeux qui sont sortis, les nouveaux jeux complexifient, changent un petit peu la règle, mais au final, il n'y a pas d'innovation, ou il y a très très peu d'innovation. Les jeux qui sortent aujourd'hui, on présente finalement très très peu de changements, de renouveau. Alors oui, il y a un petit changement par-ci par-là, mais finalement c'est un petit changement, il y a très très peu d'innovation encore une fois. Donc voilà, je me pose cette question, est-ce que finalement les auteurs de jeux ne devraient pas tout simplement arrêter de jouer quelques temps, un mois, deux mois, six mois, histoire de se vider la tête et puis de proposer quelque chose de neuf. Alors forcément, vous allez me dire que le neuf qui pense proposer finalement est repris de quelque chose qui existe déjà. Mais je pense que pour innover, à un moment donné, il est peut-être important de faire table rase sur les idées reçues, les idées préconçues sur d'autres jeux, et puis proposer quelque chose de tout à fait nouveau. Parce que finalement, j'ai un peu peur que le monde du jeu de société moderne commence un petit peu à se mordre la queue. Alors je ne dis pas ça en vieux routard et en vieux briscard un petit peu lassé. Non, je dis ça simplement en me rendant compte que oui, alors il y a un développement du marché, mais que au bout d'un moment, on va commencer un petit peu à avoir fait le tour de toutes ces mécaniques similaires. J'ai posté justement ces interviews croisées de différents auteurs sur comment arriver à une idée, conseil d'auteur de jeu. Et puis ce qui est intéressant, c'est tout à la fin, il y a une conférence TED. Voilà, encore une fois, j'aime bien consulter des conférences TED. Il y a une conférence donc de Steven Johnson, Where Good Ideas Come From, qui parle qu'en fait, finalement, on n'arrive pas à une idée dans l'absolu. C'est Bruno Catala qui le dit également dans une autre interview. Finalement, on n'arrive pas à une idée dans l'absolu, on s'inspire d'autres éléments pour développer quelque chose. Mais je n'ai pas envie d'être autant abrupt dans cette idée-là et puis de me dire que finalement, pour innover, on peut essayer d'essayer quelque chose de tout à fait nouveau en évitant de se baser sur d'autres éléments. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis à tout bientôt.
Écoute, merci encore Gus de cette intervention, toujours très instructive, toujours aussi intéressante. Et Jérémy, je pense que tu veux réagir.
Oui, déjà je suis content de retrouver Gus, effectivement. Ouais. En plus, pour la première fois, c'est un terme en français, pas en anglais. C'est pas innovation, c'est innovation.
Mais c'est pareil, non,
la réflexion. Oui, mais il avait fait la réflexion la dernière fois qu'il parlait de trucs anglais. Alors moi, pour réagir rapidement sur l'innovation, effectivement... Les auteurs s'inspirent des autres jeux, mais c'est normal. Je veux dire, on a parlé juste avant du deck building. C'est normal qu'un nouveau mécanisme comme le deck building, qui est très novateur quand il arrive, il faut du temps pour que les auteurs s'en imprègnent. Et effectivement, ça leur donne des idées, c'est normal. Et quand ils ont une idée d'un jeu, je pense qu'ils ont l'idée de quelques mécanismes qu'ils ont envie de mettre ensemble. Mais forcément, ils vont les piocher, ils ne peuvent pas tout inventer. Donc à mon avis, ils vont en garder quelques-uns, ils vont peut-être essayer d'en mettre. Ce que je veux surtout dire pour moi...
Excuse-moi.
Ouais.
Moi, je vais juste te poser une question.
Une.
Ok, t'as tout ce qui vient après Dominion. Mais Dominion, c'est quand même un changement radical. Voilà. De façon de, c'est un mécanisme qui est complètement novateur.
Alors, j'allais y venir. En fait, Wow. Moment, par rapport, je sais pas depuis combien de temps Gus se joue.
Mais Gus, en fait, il faut nous répondre.
Ouais, il faudra nous répondre par mail. Bah, bref. Je pense que ça fait pas si longtemps que ça que tu joues. Désolé si je me trompe. En fait, il y a un mécanisme majeur qui débarque, on va dire, à peu près tous les 3-4 ans. Et le dernier en date, c'est notamment le deck building. On sait pas, il y en aura sans doute un bientôt. Je sais pas. Enfin, actuellement, c'était le deck building. Avant ça, il y avait eu la pause d'ouvrier. L'air de rien. Ça a débarqué avec les Kaelus, etc., quelques temps avant. Et il y a eu une période où la mode, c'était les jeux d'enchères. Ça a été des modes où on essayait à l'époque d'éradiquer le hasard. Elle a été remplacée par les enchères. Mais en fait, on s'aperçoit que les enchères, c'est très exigeant. Il faut qu'un joueur soit vraiment, comprenne vraiment toutes les subtilités de l'enchère avant de se. Enfin, d'y aller. Donc après, on a changé le système. La pose ouvrier, c'est ni plus ni moins qu'une enchère qui a évolué. Mais ça reste. Il faut aller se placer d'abord. Tu vas te mettre là où tu penses que ça a le plus de prix.
C'est pas faux.
Ah ouais. Le deck building, par contre, c'est vraiment complètement novateur. C'est une évolution qui arrive vraiment post-Magic, post tout ça, mais c'est marrant, ça arrive des années après les jeux de cartes collectionnés.
Oui, mais alors la question, c'est pas est-ce qu'il faut pas avoir évolué et être passé par certaines étapes de mécanisme pour pouvoir arriver là. C'est-à-dire, tu
Vaccarino, il a été inconnu avant Dominion. On sait pas d'où il sort.
Non, c'est pas ça, c'est pas lui. Ouais. C'est son mécanique, c'est sa mécanique.
Ouais.
C'est-à-dire, ok, on construit son jeu, mais avant de construire son jeu, il faut qu'il y ait des jeux de cartes. Il faut que les jeux de cartes se soient développés.
Et oui, ça, c'est un prédicat, il est parti de ça, par contre. C'est ce que je dis, on ne peut pas tout inventer.
Et après, peut-être que lui, il joue à Magic et qu'il joue avec tout le monde joue avec les mêmes cartes. Tu vois, enfin...
Ah bah ça, c'est...
Là où je veux en venir, c'est peut-être qu'il faut une certaine évolution et que tant que tu n'as pas ces étapes et que tu n'as pas des marches successives et qu'il te manque des marches à ton échelle, bah, tu ne peux pas monter plus haut.
Oui, c'est ça. Oui, ça arrive doucement. Je pense que c'est pareil. La pause ouvrière, ça n'est jamais arrivé s'il n'y avait pas eu les enchères avant.
Ouais, enfin là, la marche, elle est.
C'est une autre marche, mais je pense qu'elle est arrivée là. Elle est arrivée parce que moi, je vois, il y a des joueurs, ils ne peuvent pas jouer des jeux d'enchères, ils ne sont pas capables d'évaluer le juste prix d'une enchère. Ouais, et quand un jeu se joue entièrement à travers des enchères, je pense à certains jeux de Knizia, ça peut. Qui sont super, hein, qui étaient vraiment jugés comme exceptionnels à l'époque, mais n'empêche qu'il y a des joueurs qui n'arriveront pas, parce que l'enchère, c'est quand même un mécanisme complexe.
Oui, mais je vais dans ton sens, je vais faire une petite aparté. On a beaucoup joué à Mule et Monnaie,
voilà.
Jeu qui est introuvable. On achetait des actions qui, en fait, valaient beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on claquait notre fric, mais de façon incroyable. Mais comme tout le monde claquait tout autant son fric, ça marchait quand même.
Oui.
Et quand tu joues avec quelqu'un qui dit « Mais non, regarde, tu comptes, en fait, ça, ça correspond à telle action, et en fait, bah, ça vaut ça. » Ah oui, ah, ça ne vaut pas trois fois plus alors.
Ça, c'est quand les mathématiciens débarquent dans le jeu.
Bon, mais revenons aux innovations.
Voilà, et après il y a l'autre problème pour moi, c'est qu'il y a une logique du marché, effectivement, le marché est en expansion, qui fait que les éditeurs doivent de toute façon sortir des jeux. Les auteurs, il y en a des tas en permanence, plein de nouveaux, etc. Donc de toute façon, il y a matière à sortir plein de jeux. Certes, ils ne sont pas tous innovants, certes, il y en a, ils font que remâcher des thématiques sorties avant. Mais n'empêche que les éditeurs, ils sont obligés de devoir sortir, proposer du nouveau. Alors après, bah, c'est le problème, ça fait partie de l'overplay, c'est-à-dire que ça fait des jeux, on va faire du MMMs. On va dire, bah non, celui-là, je ne le prends pas, je ne l'achète pas, parce que c'est un mécanisme que je connais déjà. Pourquoi ? Parce que je joue depuis longtemps. Mais quand je suis un nouveau joueur, je vais être tenté par celui-là, pourquoi pas ?
En fait, il y a deux choses. Days of Wonder sort un troisième, ou je ne sais plus si c'est le troisième ou quatrième, Small World, tu te poses la question, il n'y a rien d'innovant, quoi. Si, c'est des hexagones, super. En fin de compte, t'as des.
Alors, mais ils amènent pas. Mais c'est pas de l'innovation là.
C'est pas de l'innovation, bah c'est bien ça.
Là, c'est l'enrichissement. On enrichit un jeu. Moi, j'adore ces extensions qui, quand c'est un jeu que tu aimes avoir des extensions qui vont te faire ressortir ta boîte.
Attends, ça l'enrichit ou ça le modifie?
Ça l'enrichit. Enfin, c'est les deux.
Là, pour le coup, bah non.
Pour moi, si t'as. Bah, regarde, on a parlé d'Agricola. L'extension, elle fait les deux.
Je suis d'accord.
Elle modifie. Et elle enrichit le jeu. Une fois que tu es. Au bout d'un moment, quand tu maîtrises Agricola, tu n'as plus la pression de la bouffe, hein, tu sais beaucoup mieux gérer. Jouer à l'extension, la première partie avec l'extension, tu fais. Mais à nouveau, j'arrive plus à jouer. Je sais plus comment gérer à la fois le chauffage et la bouffe. Et ben voilà.
Ouais, mais si on repart par là, est-ce qu'il y a de l'innovation dans l'œuvre? Est-ce qu'il y a de l'innovation dans Aura et Labora? Enfin, le problème, inventer une. Alors, d'abord, est-ce qu'on peut inventer une mécanique ludique complètement. Qui sort de nulle part.
Difficilement, parce que les jeux sont essentiellement basés sur les dés, en plus ça revient à la mode, ça à mon avis, j'attends, peut-être que la prochaine évolution viendra autour des dés, et c'est basé sur des cartes. De toute façon, il n'y a pas 50 façons de bâtir un jeu. À la base, même au niveau du matériel, on est limité. On parlait en matière d'innovation, un jeu aussi qui avait un petit peu été nouveau.
Pas Roberto Fraga. Il n'est pas limité au niveau du
matériel. C'est sa richesse. Il n'hésite pas à tester tous les gadgets électroniques.
Ah oui. Et en off, tu m'as dit un truc. Tu m'as parlé de Squad 7, la bande son.
Ouais.
La bande son, c'est clairement une innovation.
Oui, mais c'est ça. Et ça a donné lieu. Pour moi, c'est pareil. Ouais. C'est l'innovation.
Et ça sortait de nulle part. Et ça a mis une contrainte, ça a mis la contrainte de temps. C'est-à-dire, si tu vas me dire, oui, mais avant, il y avait les sabliers, et maintenant, on a mis une bande son. Ok.
Bon, mais c'est énorme. Non, parce qu'il faut réagir à des stimuli en plus sonores dans Squad 7. Parce que tu dois faire attention si c'est le jour ou la nuit.
Ouais.
Donc, attention.
Jour, nuit. Jour, nuit. Bon.
C'est tout. Après, non, c'est tout. Moi, à mon avis, on peut pas presser les éditeurs, les auteurs toujours trouver des trucs novateurs. Ou alors, un auteur qui pourrait être avec des idées trop novatrices pourrait très bien, en fait, peut proposer son jeu aux éditeurs, mais c'est refusé parce que ça colle pas avec le marché en ce moment. Il le ressort dans 2 ans et ça marche. On ne sait pas depuis combien de temps il a conçu Dominion. Comment est-ce qu'il a fait pour séduire un Tim Gluck et Rio Grande et...
Donc, Donald, si tu nous écoutes,
n'hésite pas.
Fais-nous un mail. Et dis-nous comment tu as fait.
On lui fera un mail.
Je pense. Alors pour moi, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a des idées dans l'air. C'est-à-dire, c'est un peu comme le prénom des enfants.
Oui. Alors ça, je l'ai noté, mais je l'ai remarqué effectivement. Des fois, on a la même idée qui apparaît en plusieurs endroits en même temps. Mais on le voit surtout pour les thèmes. Mais on le voit surtout pour les thèmes. Notamment, à chaque fois, les éditeurs communiquent pas entre eux, mais ils sortent les jeux avec les mêmes thèmes parce qu'ils ont la même démarche intellectuelle.
Oui, mais ça veut dire que, en fait, l'innovation, c'est plutôt. Je reviens à mon idée d'évolution. Oui,
ça révolue, ça réfléchit.
Et t'arrives à un moment où il y a forcément une conjoncture entre des mécanismes qui existent déjà ou des types de jeux qui existent déjà qui vont aboutir à un nouveau jeu. C'est-à-dire, c'est l'évolution, c'est l'arbre de l'évolution. T'as chose qui
pour les thèmes, c'est vrai, mais pas les mécanismes. On n'a jamais vu en même temps deux deck building arriver en même temps, qui étaient novateurs.
On n'a pas vu
deux poses d'ouvriers arriver en même temps. Il y en a un qui arrive, qui pose le terrain, et les autres débarquent l'année d'après.
Mais c'est pas mal. C'est-à-dire que quand reprenons notre sujet fétiche, le deck building, on salue au passage la grand-mère de Jocelyn. Quarriors, est-ce que c'est une innovation pour toi?
Non.
Eh ben,
ils ont changé. C'est pas des cartes, c'est des dés. Mais c'est pas une innovation, c'est une évolution.
C'est une évolution.
Voilà. Mais c'est pas une innovation. On sait pas la prochaine évolution. Moi, je dis, elle viendra peut-être autour des dés parce que les jeux de dés reviennent à fond en ce moment.
Je pense qu'il faut le voir effectivement comme la théorie de l'évolution de Darwin. Enfin, ou même l'évolution des espèces. C'est-à-dire que tu vas avoir des on est de plus en plus grand. On a une tête de plus en plus grosse. On change, c'est-à-dire que tu prends, on est de plus en plus gros, tu prends un Homo sapiens de l'an 2000, t'en prends un de 1900, ils vont être différents. Ça sera toujours les mêmes, mais ils vont être différents. Et bah, tu prends un Dominion, ça s'est passé par Thunderstone, et puis ça arrive à Quarriors. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'il y a une évolution. Après, t'as des changements génétiques, t'as une fracture de gènes, t'as un gène qui va muter complètement, qui va surgir de nulle part, ça va donner...
Voilà. Ça devrait pas tarder d'ailleurs. Voilà. Ça devrait pas tarder à sortir le nouveau concept novateur.
Donc effectivement, je pense comme toi que étant donné qu'il est de plus en plus facile de se faire éditer, qu'il y a de plus en plus un public de plus en plus large et qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent de jeux comme nous, que ça se prête à l'évolution des mécanismes. Et de toute façon, c'est bien qu'il y ait de l'évolution parce que j'ai écouté d'ailleurs deux des jeux ce matin avec Arnaud Urbon qui disait tu prends Tikal 2, et ben il y a une évolution parce qu'il y a 15 ans ou 20 ans quand c'est sorti, il y avait 20 pages de règles, il y avait des trucs beaucoup plus compliqués, on en prenait beaucoup plus de temps, on avait plus de temps pour entrer dans le jeu et on s'effrayait moins des règles plus compliquées. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On cherche.
Parce que le marché du jeu évolue vers le casual et vers le party game. Donc, il faut faire des jeux plus accessibles. Ouais. Et c'est pour le grand public, pas pour le tout public.
Mais voilà, ça veut dire que le public s'élargit peut-être aussi. Et qu'en fin de compte, il y a une différence. Il y a des gammes, en fait, sur le même thème où tu vas t'adresser à un public différent.
Dans l'interview avec Martin Wittberg, il disait tous aussi que tous les joueurs, on rêve tous secrètement d'être auteur d'un jeu. Parce qu'on rêve tous secrètement.
Moi, je sais que je peux pas être auteur de jeu.
On verra après, tu me diras si tu n'as jamais essayé de le faire. Mais il dit bien, on aimerait toujours, il y a tel et tel mécanisme qu'on aime bien et qu'on aimerait les reprendre, les mettre dans un jeu. C'est exactement ça.
C'est ce qu'a fait Martin Wallace avec beaucoup de ouais. brio pour Fear Across
America. T'as jamais essayé de construire? Moi, j'ai essayé des fois de construire des jeux en me disant, tiens, on va faire un peu de ça. Ou alors, tu conçois un jeu, tu te dis, ah, je vais faire ça comme ça, puis tu réfléchis, tu dis, ah non, par rapport au marché actuel, bah, c'est trop compliqué.
Non, tu dis pas. C'est tes éditeurs si tu te dis ça.
Non, mais non, quand t'es auteur, après, tu vas chercher un éditeur. Donc déjà, tu as déjà une réflexion qui est par rapport aussi au marché, ou pas forcément au marché, mais on va dire par rapport aux joueurs, par rapport à leur façon de jouer du moment. Parce que toi-même, t'es joueur. Et donc toi-même, tu t'imprègnes déjà des choses. Tu te dis, je peux pas faire un truc, justement. Ouais, on en est à se dire, je vais simplifier les règles. Bono fait d'utile, il a mis dans un édito. Et aussi, il mettait bien que quand il faisait un jeu, en fait, il fallait vraiment en arriver à ne pas hésiter à couper dans le jeu jusqu'à n'avoir que le strict minimum, que vraiment ce qui fait l'essence du jeu, de ce que tu veux créer.
Ce qu'elles ont de Rosis.
Ouais, mais c'est pas de fait d'utile.
J'ai entendu dire, et tu vas peut-être me dire si. Enfin, peut-être tu vas confirmer, que Raynor Knizia ne jouait pas aux autres jeux.
Ah, ça, je sais pas. Ouais, peut-être.
J'ai entendu dire qu'il y avait certaines personnes, et je pense que le docteur Knizia en fait partie, que ces personnes-là ne jouaient pas.
En fait, en ce moment, il crée plus de jeux.
Non, mais ça fait longtemps qu'il joue.
Il fait pas de jeux de société. Après, possible qu'avant, il n'y en ait pas
créé. C'est un
businessman. Ouais. Bah, c'est vrai que ces jeux, ils ont amené une vraie mécanique froide. Hein.
Non. Tu prends Tigre Euphrate, c'est de la baston pure, c'est pas du tout froid.
Et non, c'est pas froid, je sais bien. Mais...
Alors, il y a beaucoup travaillé sur les enchères. Par contre, Tigre Euphrate.
Non, mais Tigre Euphrate, ouais.
Mais
il a amené l'innovation.
Les conflits internes, les conflits externes qui ont donné Riff Encounter, qui est un excellent jeu.
L'innovation de Tigre Euphrate, c'est une semi-innovation. C'est la façon de calculer les points de victoire en fin de partie. Mais ça a révolutionné quand même le jeu et c'est repris dans plusieurs jeux après. Ça change tout le jeu. Ouais, mais ça change le jeu.
Non, il y a ça.
Parce qu'au lieu que tu sois fort en une couleur, tu vas devoir être bon dans tout. Et ça change vraiment ta façon de jouer.
C'est l'innovateur.
Mais c'est pas une innovation qui a révolutionné pour autant le milieu à l'époque. Par contre, il a beaucoup utilisé et imposé du coup au marché le jeu d'enchères. Beaucoup de ces jeux à l'époque, Modern Art, etc.
Enfin, Modern Art, il y a quand même pas mieux comme jeu d'enchères que des enchères.
Oui, c'est ça. Ouais. Ah bon. Et là, donc, il est allé à fond des jeux d'enchères.
Et la question que je me pose, c'est...
Attention.
C'est l'œuf ou la poule? Qu'est-ce qui est venu en premier? Il faut bien qu'à un moment donné, t'es quand même, si on se dit qu'il y a une évolution vers des mécanismes novateurs, qu'est-ce qu'il y a en premier? Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un
Le jeu d'oie, le Monopoly. Après, il y a eu le lièvre et la tortue. Et l'innovation du lièvre et la tortue, phénoménal. Non mais attention, on remonte en fin des années 70, il n'y a pas de dé. Eh bien, des vendeurs de boutiques pourront te confirmer, les gens ramenaient la boîte en disant « mais il n'y a pas le dé dans votre boîte.
Oui,
il manque quelque chose dans la boîte, le matériel n'est pas complet, il manque le dé. »
C'est tant qu'ils en ont mis un après. Dans les années 90 ou 2000, ils ont réédité, ils ont refait.
Oui, ils ont mis un dé, mais c'est pour un événement particulier. Mais
c'est pour un événement particulier.
C'est que sur certaines cases, je crois que tu lances le dé, je me rappelle plus bien de l'adaptation d'Abacus.
Oui, c'est pour les cartes.
La version originale de Ravensburger n'a pas.
C'était des cartes. Tu tirais une carte au hasard.
Ben non, tu recules pour gagner des carottes et après tu payes des carottes pour avancer plus loin.
Oui, mais t'avais certaines cartes.
Ah oui, t'avais les cartes.
Dans la nouvelle version, tu lances le dé. Avant, effectivement, tu piochais des cartes.
Mais non, mais les gens étaient habitués à lancer le dé pour se déplacer.
Oui,
le lièvre et la tortue, fait sauter.
Il n'y avait pas de dé du tout. Enfin voilà, donc.
On pourrait débattre longtemps. Hein.
Donnez-nous votre avis. Est-ce que vous connaissez des mécanismes qui sont vraiment novateurs, qui sortent de nulle part et qui. Ma vision des choses, enfin, a priori, notre vision des choses, c'est que les choses évoluent et qu'on s'appuie sur ce qui a déjà été fait pour changer un élément ou un autre, et pour avoir quelque chose de complètement nouveau. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous avez des exemples de choses qui sont supra-novateurs? Est-ce que vous croyez, comme Gus, qu'il suffit de se mettre dans une cave et d'attendre pendant 6 mois pour avoir une idée? Est-ce qu'on ne reste pas imprégné?
C'est un peu le côté suisse et l'abri atomique.
C'est ça.
Parce que... mais nous, on ne peut pas tenir 6 mois dans une cave.
Arrête, je coupe, parce que sinon, on va se faire gueule. T'es super fort. Ok, voilà, donc dites-nous ce que vous en pensez. Merci encore à Gus de nous avoir fait réfléchir pendant ces, je sais pas, 10 minutes peut-être, sur un quart d'heure. j'aime beaucoup et ça nous fait un peu réfléchir aux jeux de société en tant que tel, et c'est toujours très intéressant. Voilà, merci, puis Gus. Dites-nous si vous... dites-nous si vous revoulez encore du Gus. Il faut réclamer Gus.
Non, mais dans 2 semaines, on aura un autre dossier.
Donc, Gus tient un blog très intéressant, très prolifique. Il est très prolifique, il a beaucoup d'idées. C'est gusenco.com.net. Je mettrai tout, comme d'habitude, toutes les références de, de ce très long podcast sur notre blog, podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Et merci encore à Gus pour cette intervention.
Les écrans déjà.
On passe aux écrans ?
Déjà ?
Eh oui.
Oh là là, mais qu'est-ce que ça passe vite ce soir ?
Que le temps passe vite.
D'ailleurs, c'est bientôt minuit.
Comme d'hab, quoi.
Ah non, d'habitude, on est enfin des écrans quand même à minuit.
Ah oui.
On n'est pas couché.
On dormira un peu plus tard.
Pas du tout.
On commence par quoi ? Alors ?
Alors, en fait, on a plein de news.
Ouais, on va les passer vite.
On a plein de brèves, et puis c'est comme dans les brèves des jeux papier, carton. Eh ben, c'est plein d'annonces, en fait. Juste pour vous faire saliver devant vos écouteurs.
On peut commencer par les prévisions ?
Oui, justement. C'est ce que
alors, en prévision, sur iOS, Dice Town et Péloponnèse.
Péloponnèse ?
Ouais, Péloponnèse.
C'est tout, d'accord.
Non, en autre prévision.
Non, mais tu nous dis, on ne sait pas qui les développe on...
Non.
D'accord, ok, bon, très bien.
Mais ça, c'est...
Péloponnèse, c'est un jeu d'enchères, c'est notamment de développement de civilisation.
C'est quoi, pardon ?
Péloponnèse, c'est un jeu à la fois de développement de civilisation et d'enchères.
Ouais, c'est très bien, Péloponnèse.
En 30 minutes à peine à 4 joueurs, enfin un peu plus, c'est vraiment très très bien. Et je suis content qu'il arrive sur iPhone, enfin sur iOS, pourquoi pas.
Sur iOS toujours, alors on voulait mettre du Kytrix cette semaine, on le mettra la semaine prochaine, mais sachez que Eclipse, on va avoir les premiers visuels, on a les premiers visuels de Big Daddy, Big Daddy's Creation.
Big Daddy's Creation qui a fait d'excellents portages jusqu'ici.
Neuroshima X.
Neuroshima X et Kalus. Donc vraiment, on peut espérer le meilleur pour l'arrivée de Eclipse.
Ouais, et puis je pense que ça se prête tout à fait bien à ça.
Visuellement,
en fait.
Plus, il est super. Hein. Les quelques screenshots ouais. Qu'il y a, enfin moi je trouve que c'est pas mal.
Mais c'est le visuel du jeu de base. Mais,
oui, mais
c'est
bien, ça met l'ambiance, on est vraiment dans un truc spatial. Et puis c'est tout
non. Non. On a aussi, Agricola. Ça, on l'avait déjà vu à Essen l'année dernière. On avait vu des.
Ouais, mais il n'y avait que quelques écrans.
Quelques écrans. Nightfall, je vous mettrai deux liens à YouTube sur lesquels vous pourrez voir vraiment tourner presque l'application. Et Summoner Wars. Donc, ça, c'est Playdeck qui confirme trois jeux sur iPad pour le printemps. Le printemps, c'est maintenant, non ?
Ça vient à peine de commencer, mais tu sais, ça va jusqu'à fin juin. Tu sais, on avait annoncé notre application avant le printemps et t'es allé juste au printemps.
Ouais.
Donc, Playdeck, ça peut très bien arriver le 20 juin. Hein.
Ouais.
iPad, voilà. Et puis, on apprend aussi. Alors, c'est via un site que je vous invite à consulter qui s'appelle iPadBoardGames.org.
Plus dans les brèves.
Si.
Ah bon ?
Si, si. En fait, mais il y a le site iPadBoardGames. Alors, pour deux choses. Un, il annonce déjà les futurs jeux qui vont sortir sur iOS.
Très sympa, le site.
Et puis, il teste un paquet de jeux
ouais.
De société. Alors, la plupart, on les a déjà revus dans Proxy Jeux, quand même. Hein. Bon. Mais il est en anglais. Mais n'empêche que vous y trouverez sans doute. Il voit des jeux de société, puis il y a des jeux que je n'aurais pas classés dans les board games. Mais qu'ils
tu
ont
veux dire comme eux. Genesia ?
Non, ils ont mis... Qu'est-ce qu'ils ont mis ? Je ne sais plus.
Alors, si on avait un poil de temps chez nous, on ferait une rubrique sur le site quelque part. Avec,
ouais, il faudrait qu'on le fasse.
Oui, bah oui. Bah,
voilà, mais je ne sais pas quand.
S'il y a quelqu'un parmi vous qui nous écoute et qui a du temps de libre, on non, a du travail
faire,
pour vous.
Il faudrait faire un truc dynamique. Oui. Mais donc, sur iPad Board Games, donc vous avez plein de critiques. Alors, c'est en anglais, malheureusement, mais de plein de jeux sur iPad. Vous pouvez notamment les noter vous-même, etc.
Oh, well.
C'est pas mal du tout.
Nice.
Enfin, vraiment, il y a un top des jeux parmi les qui ont été mieux notés. Donc, actuellement, le trio, par exemple, c'est Tigre et Euphrate. Effectivement, je trouvais un excellent portage. Carcassonne et Les Aventuriers du Rail.
Oui, et c'est ça. Ouais, c'est cohérent.
C'est globalement, c'est vraiment des très bons portages. Ils annoncent surtout, on arrive aussi à savoir les prochains jeux qui sont annoncés. Donc, il y aura notamment Hacienda. Hacienda qui est un jeu... Ouais, c'est un Hacienda Gluck, alors qui est vieux. Hein, j'aurais donné...
Il est vieux.
Je donnerais 2005. Donc, c'est quand même pas tout jeune. Que je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas connu ou même oublié.
Mais si tu veux, c'est un petit
c'est
peu
un
le...
Kramer, quand même.
C'est la réflexion que je me suis fait sur Agricola. Je me suis dit, Agricola, quand même, tout le monde connaît. C'est un jeu...
Ouais.
Et en fait, 2007, il a 5 ans. Et en fait, c'est une éternité pour le jeu de société. C'est déjà vieux.
Non, c'est comme Puerto Rico, il a ses 10 ans, mais c'est un jeu, c'est un incontournable, ce sera toujours.
Oui, tout à fait, mais c'est vrai que c'est un peu... On est plutôt dans l'instantanéité au niveau du jeu de société.
Oui,
on est plutôt dans les jeux nouveaux ou les jeux de l'année. Et déjà, quand ça a 2 ans, c'est déjà vieux. Alors 5 ans, tu vois, c'est...
Oui, mais un jeu nouveau, je vais le sortir 3 fois et je vais le revendre. Et puis il y a certains jeux comme Nicolas ou Puerto que je sors toujours. Ça fait avec le même plaisir. Je sors plusieurs fois par an.
De la ludothèque idéale.
On a dérivé. Donc les jeux qu'ils annoncent, eux, qu'on arrive à savoir aussi via hypeboardgames.org, c'est notamment Hacienda, donc.
Hacienda.
De Wolfgang Kramer.
Wolfgang Kramer. Non. avec l'accent espagnol, ça marche pas.
Vous nous excuserez avec le. Il est tard. La bière a coulé un peu à flot et voilà. Et donc.
Et les filles, t'as parlé des filles?
Non, c'est pour ça que c'est si tard. Donc Hacienda, voilà. Donc c'est une sorte d'aventurier du rail un peu avancé.
Quoi? Le Havre. Attends, stop. C'est quoi une sorte d'aventurier du rail avancé? Mais de quoi tu parles?
Mais t'as joué à Hacienda?
Non.
Bon bah voilà.
Ah mais Hacienda, c'est un aventurier du rail.
Ouais, tu fais avancer, tu progresses, tu fais. Tu développes voilà ta ferme. Ah non, mais c'est tard.
C'est pour ça. Tu vois pas le rapport entre les rails et
si tu développes ta ferme et donc elle progresse sur des hexagones. T'as pas le même type d'objectif, mais tu vas aller chercher les points de victoire un peu partout. On va dire, ou alors c'est peut-être un traversé du désert.
Un danger boost.
Voilà.
Ok.
Et donc ça devrait arriver bientôt. Il paraît qu'il est en bêta. Il y a Le Havre aussi qui est annoncé pour là tout de suite en avril. Et puis après,
c'est chez qui?
Alors, Le Havre, non, je ne sais pas, c'est pas dit. Le Hacienda, c'est chez Cube Your Mind, que je ne connais pas. Alors, en tout cas, il y a des screenshots, c'est pas mal.
Enfin, de toute façon, ils peuvent pas tout faire tous.
Non, mais c'est déjà énorme.
C'est pas des grosses boîtes.
Comme à chaque fois, on le dit, hein, on parle uniquement de iOS. Alors, les possesseurs d'Android, on est bien désolé pour vous. Il y a juste l'application ConxyJeu que vous avez réussi à avoir en avant-première.
Ah, non, si, il y a l'iPad 3 qui vient de sortir.
Le nouvel iPad, c'est pas un iPad 3. Si Apple ne l'a pas appelé iPad 3, c'est qu'ils sont conscients que ce n'est pas un 3.
Il y a le nouvel iPad qui est sorti, donc vous pouvez trouver des iPad 2 pour pas très cher. Profitez-en.
Oui, je pense. C'est vraiment
pour jouer sur votre iOS.
Voilà. Alors, par contre, là, sur le site iPad Board Game, il parle d'Agricola seulement pour l'été. Mais bref, vous pouvez toujours espérer. Il parle d'Eclipse pour 2012. Enfin, il y a une sacrée liste de jeux en développement.
Mais il n'y a pas que sur iOS. Enfin, tu voulais parler de Operation Eradicate.
C'est sur iOS.
Oui, et après on passera à autre chose.
Oui, alors, on change.
Attends. Opération Eradicate.
Alors j'en reparlerai. Opération Eradicate, c'est en fait...
Quand on a récupéré l'URL qui ne peut pas être affichée.
Non, je l'ai sur mon iPad.
Ah bon ?
C'est un jeu coopératif qui reprend totalement Pandémie. Donc le jeu coopératif Pandémie dans lequel les joueurs normalement se battent contre des épidémies, enfin des pandémies qui se développent sur le monde, qui doivent trouver des vaccins. En fait, là, l'idée, c'est plutôt, c'est une thématique zombie. Et les invasions zombies qui sont arrivées sur tous les continents, et il va falloir lutter contre.
Avec des armes?
Non, avec les mêmes personnages. Alors, ils ont changé les noms des rôles, mais c'est dans les mêmes rôles, c'est pareil. Oui, ils sont armés sur les visuels, mais on joue à Pandémie. La seule chose qui a changé, c'est la carte. Les villes ne sont pas tout à fait les mêmes, les relations entre les villes sont différentes. Globalement, les rôles sont les mêmes. Simplement, le jeu, je le trouve pas... il vient de sortir très très récemment. Dans la semaine là, qui vient de s'écouler, j'ai essayé de jouer et je le trouve buggé à plein de plusieurs niveaux, au niveau des menus, au niveau de certaines choses qui sont pas très intuitives. Donc j'attends, je pense qu'il y aura une mise à jour très prochainement. J'attends cette mise à jour, on vous en parlera sans doute dans le prochain épisode. Et pour ceux qui veulent découvrir Pandémie, savoir ce que c'est, parce que peut-être que vous n'avez pas écouté nos dossiers sur les jeux coopératifs,
ouais, voilà. Ça c'est très mal.
Oui, mais c'est parce que vous le découvrez tout juste cette semaine.
Je ça, vous c'est bien, ça.
Très fortement, voilà, à découvrir, donc, à écouter notre dossier sur les jeux coopératifs.
Ouais,
et à écouter sur Pandémie. Donc, Opération Eradicate, c'est sorti sur iPad, c'est à 1,59€. Comme je dis, il y a pour l'instant des bugs. Je reviendrai dessus, je pense, dans deux semaines.
Et puis, il n'y a pas que iOS dans la vie, il y a aussi Android. Ah non, on n'arrive pas à Android. Il y a aussi Facebook. Tu passes de ton jeu de société à ton Facebook.
Rarement.
Et après, tu retrouves des jeux de société. Par exemple, tu retrouves Double.
Je vais bien y aller.
Et oui, Double Spot It sur Facebook.
Double qui existe aussi sur iOS.
Double qui existe sur iOS. Mais
avec des cartes mini. Il n'y a que 6 symboles, je crois, par carte.
On a déjà parlé de portage de certains jeux, mais c'est assez marginal, en fait.
Sur Facebook.
Oui.
Oui.
On a déjà parlé de Frédéric Morrison avec son saboteur. Il est jouable en ligne sur une version bêta de Board Game Arena.
Nos amis Board Game Arena.
Et là, je dis diantre. Je dis diantre. Maintenant, je dis diantre.
Je dis plus what the fuck.
Non, je dis diantre. c'est un jeu où tu es autour de la table et où tu dois voir les gens. Parce que saboteur, Il y en a toujours un qui est un felon et tu dis, tu le regardes dans les yeux, tu dis, toi,
moment où tu peux regarder dans les yeux.
Tu joues n'importe comment.
Vas-y, regarde-moi quand tu veux.
Voilà. Et il y a deux solutions. Soit tu joues n'importe comment, est-ce que tu joues n'importe comment.
Oui, c'est un jeu pour.
Ou alors tu t'essayes de nous saboter. Non, c'est pas moi. C'est lui. Donc voilà, je doute un peu. Je trouve que c'est bien pour découvrir
le
jeu.
Tu penses qu'il faudrait pour jouer à Board Game Arena qu'il y a une webcam qui va pointer sur tes yeux.
Tout à fait.
Mais sauf que mettre une photo de Dieu qui bouge jamais, qui ne s'y même pas.
Non, mais on représente pas Dieu. Non, sauf
non,
que les gens.
Les yeux, je veux dire. Pas Dieu, le Dieu. Il est tard.
C'est trop tard. Et non, les gens auraient des lunettes noires comme au poker.
Ah ouais. Ouais, mais tu fais une photo des yeux, quoi. Ils bougent pas. Jamais tu filmes des yeux.
Tu photographies tes yeux et tu les mets dans la webcam. Okay. Donc Saboteur sur Board Game Arena. Et si vous êtes fan de Michael Schacht,
il arrive.
Vous pouvez essayer ses jeux sur son site. Et donc, vous pouvez essayer Mondo Sapiens, dont on vous a parlé dans un numéro précédent, mais très brièvement.
C'est une reprise de Mondo, solo, en fait.
Et puis, Coloretto Amazonas, vous pouvez y jouer dans une version de joueur.
C'est pas bon. Le jeu à deux n'était pas très intéressant. Donc, je pense pas qu'en ligne soit plus intéressant que la version jeu de cartes.
Non, mais l'idée, c'est que vous pouvez découvrir les jeux de Michael Schacht et c'est bien. C'est plutôt pas mal.
Mais je pense qu'il est plus édité, en fait, Coloretto Amazonas. T'es pas fan de ça.
Et puis, ce soir, on va vous parler de deux jeux.
Et oui, hein, parce que bon.
Enfin, de deux jeux de plus. On va vous parler de Wars of the Rose, dont on vous a déjà. On vous a mis un petit peu l'eau à la bouche il y a 15 jours.
Ouais, il y a deux semaines, je venais juste de l'avoir, donc c'est pareil, je préfère attendre, le tester vraiment avant d'en parler.
Ah, tu veux pas parler de jeux que tu ne connais pas et juste en disant.
Non, j'aime bien y faire quelques parties, m'imprégner du jeu. Je dis pas que j'ai fini le jeu, mais.
Ouais. Et puis, je vous parlerai de Army of Frogs. Allons-y.
Attends, oui, je cherche mon papier.
Allons-y.
C'est parti. Alors, la guerre des roses, de son nom français. Mais malheureusement, vous ne le trouverez qu'en anglais. Première critique, premier point négatif. Vous ne le trouverez qu'en anglais, c'est Wars of the Rose.
Mais c'est vraiment un point négatif. Je veux dire, t'as vraiment besoin de te référer au.
Bah, j'en sais rien, la règle, quand tu ne la connais pas du jeu, oui. Mais justement, à la rigueur, c'est pas grave. Vous allez chercher, vous la trouverez sur ludisme.fr. Vous cherchez la guerre des roses, vous trouverez la règle.
C'est ludisme.fr.
Ouais.
Moi, de mon temps, c'était ludisme.free.fr.
Oui, mais maintenant, il a un .fr direct. Et vous trouverez la règle en français et vous saurez facilement y jouer. La Guerre des Roses, c'est un jeu pour deux joueurs de Dirk Haen. Donc, Dirk Haen, c'est l'auteur notamment de Alhambra, donc auteur connu. Je crois qu'il a fait aussi Wallenstein et la version
Shogun.
Voilà, Shogun. Donc, un auteur quand même avec quelques petits jeux renommés. Donc, La Guerre des Roses, c'est sorti en 1999, n'est-ce pas, Olivier? Tu avais 4 ans.
Le siècle dernier. Ouais. C'est ça, tout à fait.
Tu avais 4 ans. Mais tu découvrais le verger. Tu découvrais tout de suite le verger.
C'est ça.
Alors que La Guerre des Roses sortait déjà chez Cosmos et sortait peu de temps après en français chez Tilsit.
Til quoi?
Tilsit, éditeur qui a disparu. Je ne suis pas sûr que La Guerre des Roses soit encore disponible, du coup. Toute cette gamme de jeux à deux.
C'est bien, non, qu'ils aient disparu, Tilsit. J'aurais pas. Je croisais certaines.
Non, j'en sais rien, mais du coup, il n'y a plus ces jeux pour deux joueurs. Si, je crois que c'est Philosophia qui fait Kauna et tout ça maintenant en français. Mais La Guerre des Roses, je crois, a disparu du coup du catalogue.
Ouais. C'était pas terrible, ce site, mais.
Chut. C'était avant tout un éditeur de Wargame. C'est pour ça que dans le jeu de société, ils ont eu plus de mal. Alors, La Guerre des Roses, le principe, c'est à deux joueurs. On reproduit une guerre de succession en Angleterre, je sais plus, en 1400. Désolé, j'ai pas révisé la partie historique. Ça se joue à deux, c'est en fait c'est un jeu de prise de territoire. Le principe, c'est qu'on a des cartes. Chaque joueur débute, je ne sais plus combien, 3 cartes, je crois, pour en avoir 5 maximum en main. Et à son tour de jeu, il peut ou bien piocher une carte, ou bien il doit jouer une carte. Ou bien s'il ne peut rien faire, il passe. Pour jouer une carte, en fait, il y a un jeton qui indique là où se déroule la bataille en ce moment. Et les cartes, elles indiquent avec une épée une direction, donc une des 8 directions. Hein, donc orthogonale ou diagonale, et un nombre de cases. Donc par exemple, ça va être de 2 cases vers la droite. Dans ces cas-là, on prend le jeton sur le plateau qui indique là où a lieu la bataille, on le déplace de 2 cases vers la droite, et le joueur place un de ses jetons à sa couleur sur le plateau. Le principe, ça continue comme ça. Chacun son tour, on joue ou bien on passe quand on ne peut pas. Oui, on pioche. La fin de partie arrive quand aucun des joueurs ne peut plus jouer. Et on compte le score. Le score, c'est on compte pour chaque zone où on a mis ses pions. On fait la somme des pions qui se touchent orthogonalement, donc par diagonale. On calcule combien il y en a dans la zone et on met la valeur au carré. Par exemple, si vous avez 5 pions qui se touchent, on fait 5 x 5, ça fait 25 points. Plus à un autre endroit, vous avez une autre zone, vous avez 3 pions qui se touchent, donc plus 9 points. On fait la somme comme ça. Heureusement, l'iPad le fait pour vous. Et ça vous donne le gagnant. Tu constitues, en fait, c'est juste un jeu de placement où tu vas devoir faire des zones d'influence en déplaçant un curseur à travers avec tes cartes et faire en sorte que tu aies plusieurs de tes pions à ta couleur qui se touchent pour faire des grandes zones.
Qui se touchent
eux. Plus tu as une grande zone, ouais, si tu as une zone de 9 pions, tu fais 81 points d'un coup. C'est bien plus fort d'avoir une zone de 9 pions qu'une zone de 5 et une zone de 4.
Tu dois relier tes pions ?
Ouais, le mieux, c'est qu'ils soient le plus possible compact, en soi. Ouais, le plus relié possible. Pas en diagonale. Voilà. Dans ce jeu, il y a plein de choses. Le jeu, il est riche.
Il est riche ?
Ouais, enfin, je trouve...
Il a hérité ?
Ouais, c'est ça. Non, au niveau des choix, t'as quand même plusieurs choix. Alors après, certains pourront dire que les choix, au bout d'un moment, deviennent automatiques. Mais enfin, avant que vous en arriviez là, vous aurez déjà bien joué. Il faut savoir à la fois quand est-ce qu'il faut aller se développer, quand est-ce qu'il va falloir piocher uniquement et renforcer ses cartes en main. Les cartes de l'adversaire sont visibles. On voit toujours toutes les cartes, en fait. On sait à la fois ce qu'a l'adversaire et ce qu'on a nous. Du coup, on se rend compte que parfois, en déplaçant le curseur à un endroit, on va pouvoir jouer plusieurs tours d'affilée avant que son adversaire puisse faire quelque chose, parce que lui n'aura jamais de cartes qui lui permettront de bouger, parce que les cartes l'emmènent par exemple le curseur hors du plateau, ce qui n'est pas possible.
Mmh.
Voilà. Et alors, la règle du jeu, elle est uniquement en anglais, à travers... Il n'y a pas un tuto interactif, mais globalement, voilà, la règle, je vous l'ai déjà résumée là. Ah si, il y a un point que j'ai oublié. On peut prendre, c'est important, parce qu'une fois qu'on a posé un pion sur le plateau, normalement, il est posé irrémédiablement. On peut toutefois, trois fois seulement maximum dans le jeu, prendre des pions à l'adversaire en jouant des cartes chevalier qui permettent du coup de faire une prise. C'est-à-dire qu'on amène le curseur là où est un pion adverse et on joue sa carte chevalier et du coup on prend sa place. Ça c'est important parce que des fois quand il y a une zone par exemple de 9 cases qui se tiennent, mais il y a un endroit qui a un point faible, il n'y a qu'un seul pion qui va couper sa zone en deux, on va se placer là pour lui casser ses points. Le problème de ça, c'est que des fois, on est obligé de jouer ça parce que c'est le seul coup qui est possible. Ça, c'est pareil, ça fait partie de la richesse du jeu qui est de temps en temps d'amener l'adversaire à obliger à utiliser ses cartes chevaliers pour réussir à. Pour le forcer à dépenser ses cartes chevaliers, puisqu'en fin de partie, c'est vital d'en avoir encore pour casser les grosses zones de score. Évidemment, il y a un effet du hasard qui est là dans le jeu, mais il faut le prendre en compte et il faut se développer en conséquence. Au niveau des modes de jeu, on peut jouer à la fois à deux sur le même iPad. On peut jouer sinon contre un joueur à travers Bluetooth. Comme c'est une application universelle, elle peut être jouable sur iPhone. C'est là que je pense que le Bluetooth prend tout son sens. Et on peut également jouer à travers le Game Center.
Je découvre, hein, c'est pour ça que je fais...
Ouais. D'accord.
Ça a l'air malin double ce jeu.
Ouais, c'est pas mal. Ouais. En fait, je l'avais testé à l'époque et je l'avais pas trouvé intéressant. Et sur l'iPad, j'ai trouvé en fait très intéressant, très riche. Il faut dire que j'étais à une AG un peu inintéressante quand j'y ai joué.
Et une AG ?
L'Assemblée Générale, mon copropriété. J'étais très content d'avoir ce genre de choses sous la main. Ça m'a passé... La soirée est passée beaucoup plus vite.
Ah, bravo.
Pardon. On peut aussi jouer contre l'ordinateur.
Tu peux live tweeter si t'as rien d'autre à faire, tu peux live tweeter.
Ou alors la moyenne d'âge de chez moi, c'est laisse tomber.
Non, mais c'est pas du live tweeter.
On live tweet pas beaucoup. C'est chez Olivier. Donc Olivier, lui, live tweet dans ses AG. Moi, je joue à War of the Rose. On peut aussi jouer contre l'ordinateur. Il y a trois niveaux d'IA. Le niveau facile, effectivement, est facile. Par contre, quand vous montez les difficultés, ça commence à se corser. L'ordinateur ne fait plus n'importe quoi.
Lui.
Il existe également un mode campagne. Alors, le mode campagne, qu'est-ce qu'il amène ? Eh ben, en fait, c'est une diversité sur le plateau de départ. Au début, on va commencer sur un plateau étroit, puis on a moins de cartes chevaliers. La partie est plus rapide. Et petit à petit, simplement, en fait, c'est juste la disposition des pions de départ qui change dans la campagne, c'est tout. Mais bah, ça suffit pour renouveler un petit peu le jeu. Moi, je trouve c'était bienvenu, ce mode campagne. Dernier point, après, au niveau des critiques. Bon, à part que le jeu soit en anglais, moi, je trouve que la réalisation est bonne.
Ouais, mais en fait,
vraiment, c'est facile. On choisit une carte, le curseur se place automatiquement sur la carte. Il a un défaut à deux joueurs l'un en face de l'autre, c'est que toutes les informations s'écrivent dans le sens d'un seul joueur et ne changent pas quand c'est à l'autre joueur de jouer. Notamment les chiffres, et certains chiffres ne sont pas toujours lisibles. On a les informations sur le nombre de pions qui sont disponibles, etc. Mais on n'arrive pas toujours à lire les chiffres qui sont sur les graphismes.
Ouais.
Et après, qu'est-ce que tu voulais dire ?
Non, je trouve que ça gêne pas trop, en fait. Enfin, bon, tu me diras. Je suis fluente, donc...
L'anglais ?
Ouais.
Oui, je suis d'accord. Oui, ça gêne pas quand on parle, quand on maîtrise l'anglais, mais si un joueur ne maîtrise pas l'anglais, bref, la règle est de toute façon trouvable facilement en français sur Internet. Et du coup, on peut tout à fait y jouer sans difficulté. La campagne, il y a un petit texte d'ambiance, des petites illustrations qui mettent dans l'ambiance, mais globalement, il n'y en a pas besoin pour pouvoir jouer. Voilà, donc La Guerre des Roses, c'est un jeu de Dirk N, normalement, pour deux joueurs. Sur iPad et iPhone, c'est une version universelle, c'est-à-dire que vous l'achetez pour un des supports et vous l'avez automatiquement sur l'autre si vous avez les deux périphériques. Et c'est vendu à 2,99€.
2,99€.
Ce qui est correct pour une version universelle.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah écoute, moi, c'est très joli. C'est assez facile. Alors, je sais pas si c'est ton explication qui rend la compréhension du jeu facile.
Non, mais le jeu est simple. Hein.
Et c'est très très bien réalisé parce que c'est vraiment très 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 joli.
Ouais. C'est un très bon portage.
Bon, après, 2,99€. Bon, 2,99€, c'est deux cafés, quoi. C'est une bière.
C'est le prix. Enfin, je pense que c'est le prix pour avoir ce jeu. Si vous avez un iPhone et un iPad, c'est pas cher, parce que vous l'avez sur les deux machines. Sur iPhone, je l'ai regardé, c'est un petit peu petit, quand même, le plateau, mais ça joue. Il y a une adaptation pour iPhone. Parce que le plateau, c'est pas aussi grand, il pouvait pas représenter toutes les cartes. Il y a une petite adaptation qui est bienvenue, ce qui fait qu'il est aussi intuitif, en fait, sur petit écran iPhone que sur iPad.
Et moi, ce soir, je voulais vous faire partager ma petite expérience de Army of Frogs. Alors,
Yeah, man.
Hey, man. Cool, man. Frogs, man. Big Daddy's Creations, man.
C'est un Big Daddy?
Oui.
Ah.
Gen 42 Creation, man. Alors,
bon, je vous ai pas la musique.
Non, c'est rigolo. C'est vraiment la musique correspond au jeu. C'est tout mignon, c'est sympa, c'est bien foutu. Moi, j'ai bien aimé. Donc, on est accueilli par cette petite musique. On a la possibilité de lire les règles ou de regarder le tutoriel. Donc, le tutoriel, en fait, c'est plusieurs écrans qui vont nous expliquer que il faut faire une suite de cette grenouille.
Comment ça s'appelle? Une frog.
Oui, a frog. Qu'il y a deux actions à faire, en fait, c'est bouger une grenouille ou rajouter une grenouille. Et après, il y a des règles. Donc, il y a la règle d'une seule île, c'est-à-dire qu'on ne peut pas couper comme un Hive, puisque c'est la même maison d'édition que Hive.
Ça ressemble à Hive, oui, il faut les
mettre. Enfin, après, ça s'arrête là.
Ah, mais c'est le jeu avec les pions en bakélite à la base.
Mais qui sont beaucoup moins jolis que le portage.
Ah oui, le jeu est super beau, on reconnaît pas tout le style du jeu de société.
Donc on est obligé de garder un seul groupe. Ensuite, tu ne peux pas créer une file de plus de 3 ou plus connexions. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire de Y.
Ah,
d'accord. Tu ne peux pas faire de Y. Mm-hmm. Et tu ne peux pas avoir une suite ininterrompue de 3 ou plus grenouilles. Donc, les règles ne sont pas très très longues, puisqu'elles rappellent en fait cette succession de je déplace des grenouilles et je pose des grenouilles. En plus, tu as ces 2-3 règles qui font que tu es très contraint par le placement. Et ensuite, tu vas te lancer dans le jeu. C'est-à-dire que tu vas dire, voilà, je veux jouer. Alors, pas tout seul, parce que ça ne doit pas marcher tout seul. Je suis un humain. Et puis, donc, tu peux jouer par internet, tu peux jouer en local game. Alors moi, je joue pas par internet, donc désolé. Tu peux dire, je m'appelle Olivier. Et puis, je peux rajouter un, deux ou trois joueurs. Donc, tu choisis ta couleur, bleu, vert, jaune ou orange. Et puis après, tu vas te mettre des IA. Et les IA, ça va de très très facile, à flegmatique, stratégique, agressive et ninja, très agressive. Donc, tu choisis, tu peux mettre qu'un seul très très facile, qu'un seul facile, etc. Tu peux pas te dire, je veux que des faciles. Et puis, tu lances le jeu. Et c'est très simple, en fait. C'est-à-dire que tu vas suivre. Alors, ça, tu vas avoir un petit pictogramme en bas à gauche qui va te dire, tu dois ajouter une grenouille. Alors, l'idée, c'est que tu vas pas avoir tes grenouilles à toi. On va mélanger les grenouilles et tu vas avoir deux couleurs de grenouilles. Bon, là, j'ai lancé une partie à deux, donc tu as deux couleurs. Partie à 3, tu vas te retrouver avec des couleurs qui ne sont pas forcément les tiennes, mais tu vas devoir relier tes couleurs, ta couleur à toi. Et donc la première chose que tu vas faire, c'est ajouter une grenouille sur le terrain de jeu. Tu vas valider et après tu vas la déplacer. Si possible, c'est-à-dire que si c'est pas possible, il va pas te proposer de déplacer. Par contre, si c'est possible, c'est d'abord bouger une grenouille et après en rajouter une. Mais il faut que c'est toujours cette contrainte de territoire qui va faire que tu pourras ou pas bouger les grenouilles. Donc ça veut dire que des fois, il va pas te proposer parce que de toute façon tu peux pas bouger les grenouilles parce que c'est contre tes règles. Voilà, c'est tout. Et ensuite, ça va se succéder, ajouter une grenouille, bouger les grenouilles, etc. Et c'est tout. C'est très, très malin, c'est très rigolo. C'est-à-dire quand tu prends des grenouilles, tu les lâches pas. Je sais pas si t'as déjà fait ça en fait. Tu les prends et tu les lâches pas.
Ouais, j'ai vu.
Ah, c'est rigolo parce qu'en fait, elles battent des pattes.
Elles battent des pattes.
C'est comme quand tu leur mets de l'acide quand t'es au collège.
L'animation est super fluide. On peut vraiment déplacer le plateau, le zoomer, le dézoomer. Voilà. C'est impeccable.
C'est beaucoup plus joli que le jeu
d'origine.
T'as des renvois sur le nombre de grenouilles qui sont en jeu et le nombre de grenouilles qui sont reliées. C'est très simple. Je pense que c'est très profond, c'est-à-dire que tu peux facilement te prendre la tête, surtout quand tu rajoutes des utilisateurs, enfin quand tu rajoutes des IA parce que tu as d'autant plus de possibilités. Et quand tu joues à deux, bah tu te dis lui, il va jouer avant moi, donc enfin tu vois, c'est les tours se succèdent, c'est lui, moi. Mmh. Quand on a quatre, il faut pas que tu anticipes juste un adversaire, mais que tu anticipes le voilà. Et là, ça devient vraiment le bordel.
Mais est-ce que c'est un jeu pour quatre? À la base, c'est plutôt peut-être, enfin, genre le côté tactique est surtout intéressant à deux jeux.
Ah, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que plus tu réduis le nombre de joueurs, et plus c'est tactique.
Ouais.
Et voilà. C'est un peu cher. Alors, je ne sais plus si c'est un. Là, on va plus le voir parce que de toute façon, comme on achète,
Si, il faut faire. Attends, je vais offrir l'application.
Army of Rocks, c'est disponible en deux versions. Alors, on n'est pas habitué à ça. Une version à 0,79 centimes pour juste le téléphone. Et puis une version.
En version plus que pour 3GS, on va dire. C'est pas une version HD, donc je pense que c'était même pas les graphismes Retina.
Ouais, enfin bon, toi qui as l'habitude de faire le crevard et de prendre un truc et de le regarder en deux fois, ça va quoi. Mais à mon avis, un truc pourri que tu regardes en deux fois, ça doit pas être très bien.
Ah non, mais pas sur un iPad, oula, je parle pour ceux qui ont les iPhones.
Ouais, et sinon c'est 2,39€ et là c'est une version universelle. Et c'est agréable, c'est le type de jeu que tu peux emporter dans le métro et que tu peux sortir, tu peux faire une petite partie. C'est plus malin que la majorité des jeux à la con que... Ouh là là, je suis vulgaire cette fin de soirée.
Ouh là là, oui.
Hein, Diantre.
Ah, Diantre déjà, tu me lâches, j'en ai vu.
Donc voilà.
Non, c'est le genre de jeu que tu peux emmener facilement avec les enfants pour jouer en train.
Ouais, malheureusement, je pense que c'est moins intéressant que Hive. C'est mieux fait. C'est ça qui est un petit peu malheureux.
C'est voilà, Daddy, c'est porte Hive.
C'est mieux fait, mais c'est moins intéressant. Donc voilà. Préférez Hive pour la profondeur du jeu. C'est pas du tout bête. C'est, à mon avis, très intéressant.
C'est super bien réalisé, en tout cas.
C'est très bien réalisé. Donc n'hésitez pas à essayer, au moins, vous installer la version. Non. Il fallait en fait suivre le compte Twitter Proxy Jeux.
Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de version gratuite, une version light d'évaluation du jeu.
Bah ouais.
Du coup, il fallait vraiment suivre Proxy Jeux. Hein, parce que pendant 4 jours, l'application était gratuite.
Quand ça sera sur Android.
Mm-hmm. Bien sûr, un jour peut-être.
Voilà.
On vous tiendra informé. Hein.
Mais en fait, ça fait faire des économies d'être sur Android. Tous ces jeux que tu n'achètes pas parce que tu peux pas. C'est ça ?
C'est ça, ouais. On m'a soumis quelques jeux sur Android, mais j'ai pas encore pris le temps de les tester. Tellement il y a de l'actualité sur la version
Android. Attends, il y a quand même un truc sur Android dont on peut parler.
Cabals, peut-être
pas ce soir.
Non, oui. Parce qu'en plus il existe sur iPhone et je l'ai mis sur l'iPhone et sur iPad aussi.
Et
bah donc faudrait faire carrément un comparatif entre les. On pourra en parler pour une multi-plateforme.
Non, c'est pas ça dont je voulais parler. C'est que sur Android, il y a la possibilité d'avoir des jeux, des dés pour.
Ah oui.
Ah bah t'avais oublié.
Ah bah oui, carrément j'ai oublié. Bah oui, je l'ai pas mis dans ma note.
Et donc des dés pour
le signe des anciens. Enfin bref.
Donc merci à L2MJ de nous avoir pointé ce.
Ça s'appelle Elder Sign Dice.
Cette application via l'application Proxy Jeux.
Ça vous permet juste de lancer vos dés de Elder Sign sur un téléphone. Alors, vous ne lancez pas le téléphone.
Tu veux dire, tu lances les dés sur le téléphone ? T'es obligé d'avoir des dés et un téléphone.
C'est ça. Non, t'as pas besoin des dés. Tu prends juste le téléphone et tu lances les dés. Ça fait pas de bruit, voilà. C'est le seul concept.
Quand vos gamins dorment dans la chambre d'à côté.
Oui. Voilà. Enfin, en l'occurrence.
quand il dorme, normalement, il dorme. Ça s'appelle Elder Sign Dice.
Merveilleux, regarde.
Tout simplement.
Roll.
Et ça permet de lancer les dés du cinéma. Et c'est gratuit.
Ah oui, c'est gratuit. Heureusement, ça fait que ça. En bah fait, attends, ça dessine 1, 2, 3, 4, 5. Les 6 dés verts, et puis on peut mettre les dés jaunes,
jaune et rouge.
Et puis ça les lance.
Mmh, ça me donne envie de rejouer Elder Sign.
Ouais, sur un smartphone.
Sur iOS, ça me donne envie, tu vois, de revoir les dés qui roulent.
Et, ouais. Et pour ceux qui ont des Android, je vous rappelle, Elder Sign, c'est sans doute la meilleure application qui existe actuellement sur la plateforme.
Ça veut dire que c'est la seule ?
Lâchez-vous. Non, il y a Carcassonne. Il y a un Carcassonne qui est pas mal, il y a 2-3 trucs. Mais lâchez-vous plutôt sur Elder Sign, vous le regretterez pas.
Et voilà.
Eh ben dis donc.
Oh là là.
Saurait-on arriver à la fin à
oui.
Bientôt 2h du matin.
Il est vraisemblable que nous arrivions à nous mettre d'accord pour couper ce podcast en deux. Qu'il n'y ait pas de...
On vous avoue qu'on s'en doutait avant l'enregistrement quand même.
En fait, ça fait un petit moment qu'on se dit qu'on va atteindre la taille critique et qu'il va falloir qu'on coupe. Et plutôt que vous faire des dossiers, enfin il y aura toujours des dossiers, les dossiers vont être... Vont faire partie de podcasts à part entière, comme on a fait dans les précédentes semaines. Par contre, on met trop de choses, on arrive à 2h30, bientôt on fera 3h de podcast. D'abord, c'est ingérable pour nous.
Non, on ne peut pas 3h, parce que de toute façon, on se couche trop tard. Ouais.
Et en plus, on est obligé de couper. Donc, alors vous écouterez ces mots. Normalement, le podcast aura été coupé en deux. Ça, c'est normalement. Maintenant, on ne sait pas comment. Donc, on espère que ça va vous plaire. Faites-nous un retour pour nous dire si c'est... on a coupé au bon endroit. Et puis, on en reparlera. On aura certainement une heure et demie d'un côté, puis une heure et demie de l'autre. Maintenant, c'est l'aventure qui commence.
C'est le monteur Olivier qui s'y colle.
Monteur toi-même. Donc, pour résumer, retrouvez-nous sur podcast.proxy-jeu.fr. Vous retrouverez toutes les références à ce dont on a parlé ce soir.
Tous les liens.
Toutes les images.
Voilà.
Tous les URL.
Tous les jeux, tout.
Retrouvez-nous surtout sur l'application ProxyJeux. Alors, l'application ProxyJeux, c'est votre application. Si vous voyez une boutique que vous connaissez, si votre boutique préférée n'est pas dans l'application, n'hésitez pas à nous la proposer. Si on a fait des erreurs, parce que c'est vrai que une certaine partie de la base date d'il y a un certain temps, il peut y avoir des boutiques
qui n'existent plus.
Il
y a des doublons aussi peut-être qu'il faut nous signaler.
N'hésitez pas à nous les signaler si vous voyez des fonctionnalités. La roadmap est déjà bien pleine, mais vous pouvez nous proposer des améliorations. Si vous avez des problèmes techniques, un petit mail à technique@proxy-jeu.fr. Et puis les événements, bien sûr. Les événements, si vous organisez... Oh merde, on n'a pas fait les événements.
Bah, on va pas les faire.
Si,
tu vas les faire.
Si. Oh, et donc, si vous organisez des événements, n'hésitez pas à nous les proposer. Voilà, donc l'application ProxyJeux, les concours ProxyJeux bientôt. Et puis, en attendant, jouez bien! Salut les joueurs, salut les joueuses. Salut les joueurs, salut les. Salut. Ma, comme tu es beau. Et au programme cette semaine, une actualité très chargée.
Ouais, on fait le tour notamment de pas mal de sorties sur vos étagères ou en approche.
Oui, on va parler aussi de sorties.
Il compte, bah, du détail. Alors, allez, la news qui m'a le plus excité.
Non, je croyais que c'était la première. Ah non, hein, excité, quoi, première. Non, c'est la première.
Ah, non, mais bref, bon.
Alors,
la news qui m'a le plus fait envie pour parler aujourd'hui, c'était une annonce d'un Agricola pour 2 joueurs.
Mais non, celle-là, il faut la faire à la fin.
Bah, c'est ce que je dis, mais bon. Oh.
Mais c'est pas la fin.
Bon, c'est pas la fin. On reviendra tout à l'heure. Rewind.
Stop. Vas-y.
Et puis la news qui m'a le plus.
Encore ?
Ouais, encore.
Après,
tu fais ton déjà vu.
Attends,
Olivier,
c'était quoi déjà?
Non, c'était celle-là, mais
après l'arrêt d'Alien Frontière. Après, c'était quoi l'autre?
Non, là j'étais juste enthousiaste pour l'arrêt d'Alien Frontière.
Et le deuxième, c'était quoi?
Bah, c'était quand on a fait la première fois Agricola, que tu m'as dit non, on en parle à la fin.
Ouais, c'est ça. Allez, vas-y.
C'est bon, je peux repartir à zéro?
Oui, tu peux partir.
Pas, tu me dis, bah, encore. Et toi, Olivier, tu voulais nous parler de...
De Army of Frogs.
Un jeu qui a été...
Édité.
Gratuit, pendant 4 jours, si vous suivez Proxy Jeux sur son Twitter.
Je vais faire pipi d'abord.
On va faire pipi.